Voilà, bon après-midi. Bienvenue ici pour parler de 2012, une fin du monde annoncée, sous titre « Et vous, comment la préférez-vous » On va en parler à trois, avec à ma gauche Didier Jamais, qui est journaliste scientifique, et qui, avec Fabrice Mottet, astrophysicien, a écrit ce livre qui s'appelle « Scénario ». 2012, scénario pour une fin du monde, chez Belin. Un livre sérieux, pas une fiction. Et à ma droite, c'est quand même, c'est pas bien de te présenter, parce que tout le monde te connaît. Pierre Bordage, sans doute un des plus importants écrivains de science-fiction de ce pays, et qui a écrit beaucoup de choses dans le domaine de l'apocalypse et du renouveau. Et donc, il pourra nous en parler aussi. Le roman qui est exposé, c'est Le Feu de Dieu, qui est directement un roman apocalyptique. Il y en a d'autres.
J'ai un post-apocalyptique qui s'appelle Le Dernier Homme. Celui-là, c'est un roman apocalyptique. Et puis, je considère Les Fables de la Bible comme un apocalyptique aussi.
Et voilà donc. Il y aura de quoi. Moi, je vais commencer moi-même, pour une fois, ne pas m'effacer devant mes deux interlocuteurs. Pour parler de la fin du monde qui est prévue, paraît-il, le 21 décembre 2012, vous en parlerez plus scientifiquement, on a un gourou de l'apocalypse en Belgique, je suis belge, qui vit en Anvers, qui s'appelle Patrick Géril, et que j'ai essayé à plusieurs reprises d'interviewer, que je n'ai jamais réussi à approcher que par email, parce qu'il se méfie maintenant des journalistes après une intervention à la RTBF, à la télévision belge. Et c'est un type de 56 ans, chômeur depuis 20 ans, je crois, un œil triste, un peu perdu dans ce monde. Et lui, il dit que bientôt un gigantesque orage magnétique va couper toute électricité sous Terre et va entraîner, par je ne sais quel processus, de la fusion nucléaire, de l'Holocauste, un hiver de plusieurs années, sinon plusieurs décennies. On va se retrouver sans électricité et presque pas, sinon peu d'hommes survivront. Et en fin de compte, derrière ce langage, il apparaît que ce n'est pas seulement un prophète de l'Apocalypse, que c'est surtout un escroc et un type qui essaye de vendre par-dessus tout, parce que dès qu'on l'approche par email, on est renvoyé sur un autre site, qui est un site de survie. Et ce monsieur, depuis que je l'ai approché par email, m'envoie deux fois par semaine des tas de publicités et de réclames pour ses kits de survie, pour ses maisons en Espagne, en Afrique du Sud, en Australie, où on va pouvoir survivre à quelques-uns si on fait des bons choix. Et sous le nom, non pas de Patrick Géril qui est le sien, mais de Gérard le Flamand, qui est assez étrange, en anglais, il m'envoie comme cela des tas de littérature sur l'après-fin du monde, parce que s'il y a une fin du monde, il y a quand même toujours un après, il faut bien vivre. Voilà, ceci pour dire que c'est un domaine où il faut avoir une solide assise scientifique pour pouvoir d'abord savoir mais de quoi on parle. Alors, moi je me tourne directement vers le journaliste scientifique. La fin du monde, le 21 décembre 2012, ça se passe sur quoi ?
Alors, d'abord, Jean-Claude, je tenais à vous remercier pour cette introduction qui pose bien les enjeux, en fait. C'est vrai que pourquoi, finalement, cette histoire d'une possible apocalypse pour le 21 décembre 2012 a connu un tel essor, un tel succès ? Eh bien, parce que des gens y ont un intérêt, et des gens de toute nature, je dirais, ce qu'on peut qualifier de pur escroc, comme la personne dont vient de nous parler Jean-Claude, qui effectivement vont vous vendre des stages de préparation à 2012 à 2000 euros le week-end, vont vous vendre des kits de survie, enfin tout ce que vous voudrez, et ça peut aller malheureusement beaucoup plus loin avec des véritables phénomènes d'emprise et de manipulation, de manipulation mentale avisée sectaire. Il y a notamment un endroit en France qui appelle à pas mal d'inquiétudes dans ce cadre-là, qui est donc la région de Bugarac et plus généralement les Pyrénées, où des gens sont en train de s'endetter pour se construire. Alors, ils déposent même des permis de construire pour des garages. En fait, ils se construisent des bunkers, ils s'improvisent des abris. Mais finalement, comment dire, et finalement, en fait, ils s'endettent même pour faire ça en spéculant sur le fait qu'ils n'auront pas à rembourser. Donc je pense qu'il y aura des réveils difficiles le 22 décembre 2012, voire le 1er janvier 2013, mais bon. Et donc, c'est vrai que moi, je suis arrivé à cette thématique-là par le biais du site internet dont je suis rédacteur en chef, qui s'appelle Ciel des Hommes, et dans lequel il y a une rubrique où, en fait, on propose à nos lecteurs de nous poser des questions sur des sujets complètement très divers. Ça peut aller pourquoi le ciel est bleu, à quelle est la distance de Saturne. Et début 2008, nous avons vu arriver une flopée, je dirais, un grand nombre de mails, plusieurs par jour, de gens réellement angoissés qui nous demandaient « Mais écoutez, on lit partout qu'il va se passer quelque chose de terrible le 21 décembre 2012. Pouvez-vous nous dire de quoi il est question ?» Alors, avec mon co-auteur Fabrice Mottès, qui est aussi conseiller scientifique de Ciel des Hommes, on s'est posé la question de savoir ce qui allait se passer. On a mené notre enquête qui nous a assez rapidement mené à la véritable source de cette date unique du 21 décembre 2012. C'est très rare finalement une prophétie où le prophète, en tout cas le professant, affirme qu'il va se passer quelque chose à une date. Les prophéties datées sont rarissimes, mais elles sont d'autant plus fascinantes. Eh bien, ça correspond en fait à la fin d'un calendrier maya. On parle souvent de la fin du calendrier maya, mais ce qui ne veut rien dire, puisque les mayas étaient effectivement d'excellents astronomes, des gens très rigoureux dans leurs observations des phénomènes célestes. Et ils avaient repéré, par exemple, ils avaient un calendrier des phases de Vénus autour du Soleil, qui était vraiment un calendrier là encore très efficace. Et surtout, ils avaient bien avant l'Occident mis au point un calendrier annuel tenant compte du fait que l'année ne fait pas 365 jours mais 365 jours un quart en arrondissant. Et donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à les égaler en Occident. Mais ils avaient à côté de ça donc ça c'était leur activité, on peut dire scientifique quelque part, mais ils sont comme toutes les sociétés humaines, ils avaient aussi des aspirations spirituelles, ils avaient une religion, ils avaient une cosmogonie, une mythologie. Et justement, ils considéraient que le soleil, auquel ils devaient, comme nous tous, tout, hein, puisque c'est la source d'énergie dans ce monde, le soleil, en fait, pour eux, avait une espérance de vie limitée. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant lorsqu'on y réfléchit, puisqu'on s'est rendu compte depuis que c'est bien vrai. Le soleil, on sait qu'un jour, il mourra. Simplement, il ne mourra pas au bout de 5125 ans, comme le pensent les Mayas, mais au bout de, ou à partir d'aujourd'hui, dans à peu près 5 milliards d'années, ce qui fera 10 milliards d'années au total. Donc l'ordre de grandeur n'était pas tout à fait le même, mais bon, c'est quand même intéressant de remarquer que cette civilisation avait accordé au soleil un statut de divinité, mais de divinité mortelle. Et donc, simplement, ce calendrier se termine le 21 décembre 2012. Et qu'est-ce qui doit se passer si vous souscrivez aux thèses mayas ou si vous êtes de religion maya, si j'ose dire, eh bien, vous pouvez tout à fait penser que, puisque ce soleil est le soleil du grand tremblement, eh bien, tout se finira par un immense tremblement de terre le 21 décembre 2012, le soleil entraînant, je dirais, l'écorce terrestre dans sa chute. Alors, ce qui est intéressant de noter là encore, c'est que ce cinquième soleil, eh bien, il a été précédé, évidemment, comme son nom l'indique, de quatre autres soleils qui, eux-mêmes, se sont terminés au bout de 5125 ans. Pour les Mayas, un soleil durait 5125 ans. Et il y a eu précédemment le soleil des jaguars, qui s'est terminé avec donc des jaguars qui sont arrivés sur Terre et qui ont mangé tous les hommes. Donc c'est intéressant de voir cette vieille angoisse humaine de la dévoration, finalement, exorcisée de cette façon. Il y avait le soleil d'eau, qui paradoxalement s'est terminé par un déluge. Pour un soleil, c'est un peu étonnant, mais voilà. Un soleil de feu, déluge là encore, mais de feu au bout de 5125 ans, et un soleil de vent, qui lui s'est terminé par un grand cyclone qui a tout balayé sur son passage. Donc on voit bien en fait la portée finalement symbolique et métaphorique de cette vision du monde, où eh bien, à intervalles réguliers survient une grande catastrophe qui vient ravir, vient menacer l'espèce humaine. Et c'est pour moi, l'interprétation que je donne de ces soleils successifs, c'est eh bien, l'humanité régulièrement est confrontée à de grandes crises, mais à la fin, quelque chose survit et un nouveau monde commence. Donc, même pour les Mayas, je dirais, il y avait quand même cette idée que si le soleil mourait, un sixième allait arriver et quelque part, la vie continuerait. Donc, même si vous êtes de religion maya, il y a des motifs d'espérer. Bon, maintenant, à partir de cette prophétie-là, vous avez le droit d'y croire. Vraiment, moi, si vous souhaitez donner votre argent à des escrocs qui vont vous vendre des stages de préparation à 2012, libre à vous. Mais il ne faut pas venir chercher des arguments scientifiques parce que c'est ce qu'on a démonté dans ce livre en détail. Eh bien, en fait, toutes les thèses amenées à l'appui de cette vision apocalyptique des choses pour le 21 décembre 2012 tombent très facilement. En fait, hein, on n'a pas eu énormément de travail à faire. Tout en remarquant, mais ça on en parlera peut-être après, que c'est vrai que 2012 correspond aussi à une phase du cycle solaire, à un pic d'activité solaire. Et là, c'est vrai qu'on peut, dans les années ou les mois qui viennent, être confronté à de grandes éruptions solaires. Donc il va y avoir effectivement une activité solaire de plus en plus intense, de fin 2012 à mi-2013. En tout cas, c'est ce que dit la prévision. Et donc, il n'est pas exclu qu'on ait de grandes éruptions solaires qui pourront déclencher éventuellement des aurores boréales et des latitudes inhabituelles, par exemple ici à Épinal.
Mais pas nous menacer.
Alors, c'est toute la question. C'est toute la question parce que là aussi, il faut tenir un langage de vérité hein, et d'honnêteté scientifique. Par exemple, en 1859, il y a eu une très grande éruption solaire, quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. C'est un petit peu hein, comme les crues centennales dont on parle, dont celle qui en 1910 a submergé Paris, en partie du moins. Et donc en 1859, il y a eu une énorme éruption solaire, quelque chose de gigantesque. Et lorsque ces particules solaires arrivent sur Terre, en fait, elles induisent dans le sol des courants électriques. Hein, c'est un phénomène d'induction. Et donc à l'époque, le seul réseau qui pouvait s'apparenter à un réseau électrique, c'était le réseau télégraphique. Et les courants induits dans ces lignes de télégraphe étaient tellement puissants qu'en bout de ligne, quelque part, les postes télégraphiques qui étaient en bois à l'époque, et on est en plein Far West, ont pris feu. Il y a eu des incendies spontanés de postes télégraphiques et évidemment tout le réseau était par terre. Ça, c'était en 1859. Imaginons qu'un tel événement se produise aujourd'hui, ça pourrait avoir un impact très important sur les réseaux électriques, en particulier en Amérique du Nord, puisqu'ils sont quand même très, très exposés, eux, de façon régulière, aux aurores boréales et donc aux conséquences des éruptions solaires. Donc la NASA prend ça très au sérieux et met au point avec les gestionnaires de réseaux électriques des stratégies de délestage pour éviter que plusieurs transformateurs ne se mettent à fondre. Parce que si vous faites fondre un transformateur, c'est déjà arrivé. En 1989, il y a eu au Canada tout le réseau d'Hydro-Québec qui est tombé en panne. Des transformateurs ont fondu et un transformateur, ça pèse plusieurs tonnes. Vous ne le changez pas comme la batterie de votre téléphone portable. Hein. Ça prend un peu plus de temps et on peut se retrouver avec une véritable crise énergétique liées à ces éruptions. Mais là, je me fais moi-même le chantre d'une théorie apocalyptique, parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé en 1859. On n'a pas vraiment idée de la fréquence à laquelle ces phénomènes peuvent se produire. Est-ce que c'est une éruption centennale ou millénaire, millénaire ? Est-ce que ça se produit tous les siècles ou tous les millénaires ? Aujourd'hui, on n'en sait rien et on observe la réalité avec beaucoup de curiosité.
Ce qui veut dire que mon Patrick Géril... je vais mettre le mot entre guillemets, pourrait s'appuyer sur quelque chose qui est un peu vrai pour aller beaucoup plus loin et annoncer la fin.
Alors, c'est la stratégie des escrocs de l'Apocalypse, je dirais, c'est toujours de partir d'éléments scientifiquement établis et de les tordre dans un sens qui vient à l'appui de leur thèse. Par exemple, autre fait scientifiquement avéré, c'est l'inversion des pôles du champ magnétique. Régulièrement, tous les quelques dizaines de milliers de... Enfin, d'ailleurs, c'est pas régulier, mais... sur des échelles de quelques dizaines de milliers d'années, les pôles magnétiques de notre planète s'inversent. Le nord devient le sud et inversement. Et donc, ça prend un certain temps, ce basculement. Eh bien, d'une part, ont mal compris ce fait scientifique et l'interprètent comme un basculement des pôles géographiques, c'est-à-dire que ce serait la Terre qui se renverserait complètement sur elle-même. Alors là, évidemment, ça aurait effectivement, à un moment, des conséquences climatiques assez intéressantes. Hein, En revanche, le basculement du champ magnétique, non seulement il s'établit probablement sur plusieurs siècles, il est d'ailleurs possible que nous soyons à l'aube d'un de ces renversements, parce qu'il y a un certain nombre d'anomalies du champ magnétique qu'on repère aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud, au large du Brésil, où en fait on a des boucles de champ magnétique qui rebouclent ici alors qu'elles ne devraient pas. On a une espèce de troisième pôle qui apparaît, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est un symptôme tout à fait... C'est interprété comme un symptôme justement du renversement, du basculement du champ magnétique à l'œuvre. Et ça ne présente pas de danger particulier, on aura toujours un champ magnétique. Le champ magnétique joue un rôle important car il forme une espèce de bulle magnétique qui nous protège de rayons cosmiques, de particules là encore, et qui les précipite à des endroits très précis qui sont donc les pôles magnétiques, qui se situent pour l'instant à peu près au niveau des zones arctiques, donc dans des régions très peu peuplées. C'est vrai que quand le champ va se mettre à basculer, on risque d'avoir une incidence sur le nombre, par exemple, de cancers, puisque ces particules sont très nocives, quand elles déboulent dans l'ADN, elles y creusent des tranchées. Donc, on a essayé d'évaluer l'incidence de ces phénomènes d'inversion du champ magnétique au moment où ils passeraient sur les zones les plus peuplées en termes de santé publique, et on en arrive pour l'instant à un surcroît de cancer de l'ordre de 5%. Alors, c'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup pour ceux qui seront touchés, bien sûr. Mais donc, il y a des risques. Ils sont souvent complètement majorés par des gens comme celui que vous évoquiez. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a aucun risque, parce que cette posture aussi qui consiste à ne pas dire au public, à ne pas aller dans les détails vis-à-vis du grand public, c'est aussi ce qui favorise les théories complotistes et conspirationnistes, parce que finalement, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Et là encore, moi, je pense qu'il ne faut pas... Je ne suis pas pour une transparence totale. On n'a pas besoin de tout dire sur tous les sujets. D'ailleurs, qui de nous ici peut dire qu'il dit tout le temps à tout le monde la vérité ? Est-ce qu'on dit toujours la vérité à ses enfants, à son conjoint, même dans certains cas ? On a besoin, et les gouvernements n'ont pas besoin d'être totalement transparents, mais il y a des questions de société essentielles sur lesquelles il faut l'être, parce que les enjeux sont trop importants, à mon avis.
C'est pas la première fois qu'on annonce la fin du monde. Il y a eu des milliers de prophéties, Nostradamus et tant d'autres, et on parle toujours du codex de Dresde, des livres de mort égyptiens, etc. Qu'est-ce qui fascine un peu les gens dans ces fins du monde annoncées ? Puis il y a l'apocalypse de Jean, évidemment. Qu'est-ce qui fascine, Pierre, les gens dans ces fins du monde annoncées ?
Moi, je ne sais pas si les gens sont fascinés. En tout cas, je dois faire partie de la catégorie des escrocs, parce que je vends l'Apocalypse à 22 euros. Je touche 10%. Voilà. Excusez-moi.
Non, et celui-là, il est même moins cher. Hein.
Ouais, mais en poche, c'est même moins cher. Mais bref, l'Apocalypse a toujours fasciné, enfin, la fin du monde, et particulièrement la littérature de science-fiction, parce que la littérature de science-fiction est une littérature chronologique, inscrite sur l'axe du temps, et que donc forcément il y a la fin des temps au bout de l'axe du temps. Donc c'est une littérature qui s'est toujours intéressée à la fin des temps, de la même façon que énormément de mythologies se sont intéressées à la fin des temps. Est-ce que vous parlez des mythologies mayas sur les soleils successifs ? Il y a aussi les âges de la mythologie hindoue, hein, le Kali Yuga, Saturne, etc. C'est-à-dire la sombre, la solaire, etc. Donc il y a toujours eu cette espèce d'idée de cycle. Et dans la mythologie, et dans la mémoire, dans l'inconscient collectif humain, traînent des mythes comme l'Atlantide, c'est la civilisation disparue, on retrouve le déluge un peu partout, dans toutes les mythologies existantes, hein, aussi bien africaines, asiatiques, américaines, etc. Donc il y a toujours eu cette interrogation sur la fin des temps, une sorte de fascination, parce que je pense que l'homme est mortel, il paraît, enfin, jusqu'à preuve du contraire, vous, peut-être pas, mais moi, oui. Et que l'homme est appelé à disparaître, et que donc, au bout de sa vie, il y a la disparition. Et donc, il y a toujours cette idée de disparition. Et d'autant plus que nous sommes très fragiles. Alors, certains éléments l'ont rappelé ces derniers temps. Il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl quelques temps auparavant, il y a eu le grand tsunami de 2004, auquel j'ai assisté parce que j'ai eu de l'eau jusqu'au genou. J'étais en Inde du Sud. Il y a eu tous ces phénomènes climatiques contre lesquels nous avons beau avoir la technologie, avoir une civilisation prétendument avancée sur laquelle nous ne pouvons pas grand-chose. Quand les éléments se déchaînent, on se sent extrêmement fragile. et donc menacé à tout moment d'irruption, alors vous parlez d'irruption solaire, de tremblement de terre, quand un tremblement de terre se produit comme récemment en Italie, on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est presque moi naturellement que, en tant qu'auteur, je me suis intéressé à ces apocalypses-là. D'abord j'avais relu toute l'Apocalypse de Saint Jean, qui était intéressante à multiples. Mais ce sont des révélations quelque part, hein. c'est des transformations, il s'agit de métamorphose, il ne s'agit pas de disparition, et les Mayas, pour moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce qu'ils annoncent, c'est une métamorphose et non pas une disparition. J'ai l'impression que les métamorphoses s'accomplissent toujours dans une sorte de douleur qui élimine une partie de l'humanité et qui fait reconstruire, parce que nous sommes quand même, il faut bien le dire, assez mal barrés, quoi, sur le plan de la civilisation, sur le plan de la population, surpopulation, sur le plan de la technologie, sur le plan... sur le plan de l'écologie, sur le plan de la pollution, on a quand même de nombreux motifs de s'inquiéter, et je pense que peut-être le rôle des auteurs, c'est de dire, voilà, on va jusqu'au bout de l'apocalypse, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit génétique, puisqu'il y a aussi possibilité d'apocalypse génétique, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les fables de l'Arrivée peuvent pouvoir être une apocalypse génétique, c'est-à-dire la disparition d'une espèce au profit d'une autre par simplement mutation des gènes implantés, donc on peut très bien arriver à une apocalypse génétique. Les risques guerriers, les risques de guerre, le risque de nouvelles religions arrivant, religions destructrices, etc. Les possibilités d'apocalypse sont extrêmement multiples. Donc je pense que le rôle des auteurs, outre le fait qu'on aime bien plonger nos personnages dans un gros univers foireux, où ils doivent s'en sortir par tous les moyens, c'est aussi une des clés des romans de science-fiction, de fantasy, etc. C'est placer les personnages dans des situations extrêmes pour voir comment ils s'en sortent, pour essayer de sortir le meilleur d'eux-mêmes, parce que je pense que quelque part, c'est un cheminement initiatique de la part des personnages. Bon, bref, toujours est-il qu'on peut offrir à la population des motifs de réflexion, pas pour faire peur, parce que si on peut jouer avec la peur, mais leur dire, est-ce qu'on peut réfléchir sur l'évolution de notre civilisation actuelle, parce que si on va trop dans cette direction-là, voilà ce qui risque d'arriver. Sans compter les risques climatiques naturels, hein, je ne parle pas de cela, je parle de nos propres risques qui sont la pollution, qui sont le nucléaire, qui sont tout ce qu'on met en place, nous, qui sont ces forces qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'on peut, justement, est-ce qu'il n'est pas urgent, parce qu'il y a une course de vitesse technologique permanente, là, actuellement, il y a une course de vitesse technologique pour la métamorphose du vivant, c'est-à-dire la biotechnologie, hein, finalement, c'est une course de vitesse technologique et économique qui ne nous laisse pas le temps de la réflexion. Et je pense que c'est dans cet espace-là que s'inscrivent que s'installent des auteurs de science-fiction pour amener une pierre à la réflexion. Dire, voilà, on peut réfléchir sur ces évolutions-là, puisque nous, on a l'imaginaire comme arme, donc on peut pousser les choses un petit peu plus loin, on peut se projeter dans l'espace et le temps, et on peut voir ce qui s'y passe dans l'espace et le temps, et voilà ce qui risque d'arriver. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir, tout simplement ?
Le sous-titre de cette conférence, c'est « Comment la préférez-vous ? » Dans les trois livres, dans les trois romans que vous avez consacrés à une fin du monde ou un changement, quels sont vos trois fins du monde, vos trois apocalypses?
Alors, je peux rajouter une autre qui s'appelle L'Ange de la Vigne, qui est une guerre entre deux religions, entre l'islam et la chrétienté. Ça faisait suite à l'attentat du 11 septembre 2001 et à la position américaine qui était, il y a un axe du mal, il faut absolument leur casser la gueule, sinon ils vont voir. Et dit, oh les gars, réfléchissez, et s'il y a des attentats sur notre sol, c'est que quelque part il y a un déséquilibre dans le monde, donc est-ce qu'on peut... On ne peut pas réfléchir plutôt sur le déséquilibre mondial plutôt que d'accuser les autres du mal. Et je me dis, si on va au bout de cette logique qui était le choc des civilisations, alors on allait au choc et donc à la guerre. Et une guerre, c'est avec l'armement dont on dispose actuellement, avec l'arsenal technologique, une guerre fait forcément énormément de dégâts. C'est une forme d'apocalypse. Après, j'ai fait l'apocalypse. Oui, bien les apocalypses. J'ai fait une forme d'apocalypse naturelle, c'est-à-dire avec les éléments, qui est donc la version du pôle magnétique dont vous parlez, avec un bouleversement climatique et une sorte d'hiver perpétuel qui s'installe à très grande vitesse, puisque le soleil ne passe plus à travers à la fois les projections volcaniques et toutes les saloperies disséminées dans l'air, donc plus le rayon de soleil, donc glaciation, etc. Donc j'ai mis un personnage là-dedans qui doit, justement, qui fait partie des apocalyptiques, qui a créé un bunker où sa famille s'est réfugiée. Et donc il doit regagner ce bunker parce que lui, au moment où l'apocalypse se produit, il n'est pas dans ce bunker, il doit faire 500 km à pied dans un pays qui est soudain dévasté et glacé, qui est un peu le même thème que la route de Cormac McCarthy. La troisième, c'est une apocalypse, donc c'est les derniers hommes, C'est un mélange de fin génético-nucléaire. où l'idée des armées, l'idée brillante des armées de l'époque, ça a été d'empoisonner toutes les eaux à l'aide d'anguilles. Génétiquement modifiées, puisque les anguilles ont cette particularité de se retrouver, de se disséminer un peu partout dans tous les cours d'eau, en partant d'un seul point, quasiment, qui est la mer des Sargasses, et donc d'arriver à se retrouver dans tous les ruisseaux existants, etc. Donc d'empoisonner toutes les eaux. Et du coup, il ne reste plus que quelques poignées de survivants organisés en tribus, dont l'une, qui s'appelle les Aquariotes, en référence à Aquarius porteur d'eau, est chargée de retrouver les dernières sources d'eau potable existantes enterrées par les armées des deux camps. Voilà. Est-ce que j'en ai une autre ? Et donc, les Fables de l'Impure, c'est une apocalypse génétique, et je m'étais basé sur les travaux de Jérémy Rifkin, qui a fait un bouquin qui s'appelle Le siècle biotech, où il décrit un univers qui est assez peu, dont on parle assez peu, qui est la chimère, c'est-à-dire créer des chimères, c'est-à-dire créer des mélanges biologiques. Et j'ai rencontré une professeure à l'université de Nantes, qui s'appelle Josène Pérus, qui faisait du mélange génétique, elle était embryonnaire, parce qu'on n'a pas le droit de faire plus pour l'instant, entre des cailles et des poulets. C'était un mélange, elle étudiait la réaction des gènes de poulets dans un environnement de gènes de cailles, enfin, ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit à cette dame, je lui ai dit, si vous aviez la possibilité de voir cette créature se développer, c'est-à-dire ce mélange embryonnaire devenir une vraie créature, est-ce que vous aimeriez la voir ? Elle me dit, ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'aimerais la voir. Et donc je me suis dit, bah, maintenant, allons plus loin. Si on crée des mélanges génétiques, on va faire des hommes rats, parce que c'est plus pratique pour ramasser les poubelles, mettons. On va faire des hommes corbeaux, on va faire des hommes ceci, des hommes cela, et des hommes gorilles pour en faire des soldats un peu plus costauds. Et voilà. Et je me dis, est-ce que en créant pas ces créatures-là, qui sont qui, comme toutes les espèces, vont essayer de prendre la place de l'espèce dominante finalement, c'est-à-dire se développer puis prendre la place de l'autre espèce, est-ce que l'on va finir par éliminer l'espèce existante pour devenir l'espèce dominante à son tour? Donc c'est une apocalypse génétique où il ne reste plus que des mi-hommes, mi-animaux qui perdent le langage, qui régressent de plus en plus, qui régressent de plus en plus vers l'animalité. C'est une autre forme d'apocalypse.
Il y a plein dans les littératures de science-fiction, en effet, des apocalypses très diverses. Dans ce que la route, je crois que c'est une épidémie qui tue les hommes. Dans Malville de Robert Merle, je ne sais plus du tout. Moi, je suis un hiver nucléaire, vraisemblablement. Vous avez le Postier, le Postman de David Breen. Il y a Stephen Baxter qui a fait Déluge et Arche, où c'est la montée des eaux qui fout en l'air complètement la planète, puisque seuls quelques survivants montent dans une arche stellaire pour gagner les étoiles.
Je crois qu'Im Stanley Robinson
encore a fait aussi une
trilogie sur les... Ça marche pas terrible, celui-là.
Une trilogie sur la pluie aussi.
Et voilà pourquoi il ne marchait pas.
Est-ce que, Didier, toutes ces fins du monde sont réalistes?
Alors, déjà, je suis un peu vexé parce que vous ne m'avez pas demandé à moi quel était mon apocalypse préféré.
C'est
enfin bon, c'est pas grave.
Ça viendra plus tard. Vous m'en avez parlé tout à l'heure.
Voilà.
On verra ça pour la fin, c'est normal.
Oui, alors, effectivement, toutes les. Le plus terrifiant, finalement, c'est le grand apport des auteurs de science-fiction, c'est que finalement l'apocalypse la plus probable, c'est celle qu'on n'aura pas imaginée et celle à laquelle on ne se sera en aucune façon préparé. Donc je trouve ça très intéressant, c'est le grand apport de l'imaginaire, justement. Et imaginaire qui, quelque part, est un ensemencement de la réflexion scientifique. Quand on se souvient, par exemple, que le plus grand savant du XXe siècle, et encore jusqu'à aujourd'hui, Albert Einstein, finalement, sa réflexion sur la théorie de la relativité, elle est partie d'une expérience de pensée. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais chevaucher un rayon de lumière ? C'est fou comme idée, quoi, pour imaginer qu'on puisse chevaucher un rayon de lumière. Et donc, c'est à partir de là qu'il s'est rendu compte, enfin, qu'il s'est dit qu'il fallait effectivement voir quelles seraient les conséquences de ce déplacement à une vitesse donc de 300 000 km à la seconde, et qu'on voyait les choses tout à fait différemment, et que bon, il y avait d'autres phénomènes beaucoup plus qui ne se décrivent que de façon mathématique qui s'en suivaient. Mais au départ, il y a de l'imagination. Donc, je citerai un autre auteur qui est Jules Verne et qui dit que il disait que ce que des hommes ont imaginé, un jour d'autres hommes le réaliseront. Alors lui, il pensait à des grandes réalisations techniques, aller sur la Lune, et on sait qu'il avait raison, mais on peut aussi l'imaginer dans le pire, c'est-à-dire que tout ce que les hommes ont imaginé de pire en termes de, justement, de raffinement technologique guerrier, par exemple, et effectivement la guerre bactériologique, c'est une réalité aujourd'hui. On voit encore des gens qui travaillent, sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien pourquoi, à aérosoliser le virus de la grippe A, par exemple, ou de différentes grippes. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est vrai que ça me terrifie. Donc, je dirais que quelque part, la pire des apocalypses, ce sera celle qu'on n'aura pas imaginée. Et c'est vrai que dans le domaine des biotechnologies, on a tout de suite peur. Enfin, l'exemple de la fameuse caille, de la poule caille, est assez éclairante à ce niveau-là, parce qu'on voit déjà que c'est une chimère, et on imagine qu'en croisant des espèces beaucoup plus agressives, je dirais, on peut arriver à des résultats désastreux.
Apprenti sorcier.
C'est typiquement, là encore, la thématique effectivement de l'apprenti sorcier qui ne date pas d'hier non plus, mais avec là des moyens dont l'humanité n'a jamais bénéficié avant aujourd'hui.
Là, on parle d'apocalypse causée en fin de compte par l'humain, par les hommes. Il y a des apocalypses qui peuvent venir de l'extérieur. Je ne parle pas là de du soleil ou quoi que ce soit, mais d'extraterrestres. Un des meilleurs bouquins à ce sujet, c'est sans doute Génocide de Thomas Nietzsche, où l'humanité, enfin la Terre est devenue un champ ensemencé par les extraterrestres. Et l'humanité, c'est les doryphores, que les robots, les énormes robots, essayent d'éliminer à tout prix. Ça aussi, les extraterrestres, c'est une peur qui est dressée contre nous-mêmes, cette présence d'extraterrestres qui nous a animés.
Je pense que c'est un autre thème, l'extraterrestre. Même si l'extraterrestre crée l'apocalypse, je pense qu'on est dans un autre registre qui est celui de la peur de l'autre, c'est-à-dire de l'inconnu, et donc du danger potentiel qu'il peut représenter. On a vu ça dans Le Gardien des Mondes, le dernier film de Spielberg, et il appartient. Donc je pense que c'est... On est sur un autre registre de science-fiction qui est une autre forme de peur, qui est la peur de la forme inconnue qui peut surgir de la nuit ou de l'espace. Et je pense que le phénomène de l'extraterrestre, ou le thème de l'extraterrestre, se rapproche à mon sens beaucoup plus du thème fantastique, qui est le surgissement inattendu de créatures monstrueuses.
Alors, bon, effectivement, moi je pense que la peur de l'inconnu est le principal moteur. Alors, à la fois à cette angoisse, mais aussi parfois à cette espérance. Hein. Il y a les deux. Il y a toujours une fascination et une répulsion pour cette idée que peut-être un jour des visiteurs pourraient venir de l'espace. Et justement, on s'imagine toujours que ce sont des civilisations brillantes et avancées, mais ça peut aussi être quelque part des gens qui ne sont pas beaucoup plus évolués que nous, finalement, et qui peuvent avoir des instincts aussi guerriers que nous. Et justement, moi, en plus de la peur de l'autre, je dirais, une thématique auquel, à mon avis, l'imaginaire extraterrestre fait aussi écho, c'est celle de la façon dont, entre terriens, finalement, nous avons réussi à nous exterminer les uns les autres lorsque, par exemple, les Européens ont découvert les Amériques et justement ces brillantes civilisations précolombiennes, les malheureuses, et ce qu'on en a fait, et toutes les, je dirais, toutes les. Tout l'aspect culturel qu'on a brûlé parce que ça n'était pas les Saintes Écritures finalement, et qu'avec la Bible on s'en sortait très bien, il n'y avait pas besoin de croire justement au cycle des soleils. Donc il y a vraiment une mauvaise conscience finalement très, je trouve, particulièrement aiguë et bienvenue, et qui nous permet de nous placer aujourd'hui dans un autre, de renverser la perspective. Ça n'est pas finalement l'Occident qui découvre des civilisations, en tout cas sur le plan technique, moins brillantes, mais c'est la peur que finalement, le châtiment nous soit retourné et que nous soyons trouvés par des créatures beaucoup plus développées et qu'elles nous fassent finalement subir le même sort. On peut parler de génocide culturel, en tout cas, que nous l'avons fait subir à un certain nombre de populations à travers le monde, à travers les âges.
Oui, c'est tout à fait évident. Il y a un film, c'est Hommes en série, dans le livre de Stéphane Bull, Hommes en série, où ce sont les humains qui subissent effectivement l'agression ou l'esclavage de notre civilisation. Pour en revenir à l'aspect menace extérieure autre par nous-mêmes, il y a la collision, évidemment, la collision spatiale. Et il y a toute une...
C'est celle-là ma préférée.
Il y avait justement un livre de Velikovsky, je ne sais pas si vous connaissez, sur cette planète elliptique, à parabole elliptique, qui disparaît de notre champ de vision et qui revient et qui frôle la Terre de tellement près qu'elle crée des catastrophes. Et il explique toute la Bible et toute l'histoire de la fuite en Égypte des Hébreux, tous les phénomènes qui accompagnent la fuite des Hébreux d'Égypte. Tous ces phénomènes naturels l'expliquent par la proximité de cette planète qui projette des pluies, qui fait partir les grenouilles. Enfin, il y a tout un développement sur cette planète. Vous l'avez lu, je suppose.
Oui, oui. Alors effectivement, bon, le problème de Velikovsky, c'est qu'il n'y a aujourd'hui rien sur le plan des trajectoires orbitales qui permettent de venir à l'appui de cette théorie, si bien qu'elle a été considérée comme, on va dire, parascientifique plus que scientifique. Mais ce qui est aussi extrêmement troublant, c'est qu'il y a une géologue française, Marie-Agnès Gaudry, je crois, qui est en train de mettre en évidence, mais en se battant un petit peu contre ses collègues astrophysiciens qui ont du mal à le reconnaître, qu'il y a probablement eu un gros impact, il y a 4000 ans, donc parfaitement dans des temps historiques pour nous, qui a laissé des traces, des couches de cendres. L'impact se serait produit au niveau de l'Antarctique, en fait, et comme on le sait, parce qu'en fait, on a trouvé, eh bien, justement, à la hauteur de la Mésopotamie, par exemple, des fossiles d'animaux marins, des radiolaires, que généralement on trouve dans les régions polaires. Et tout ça réparti dans une couche de cendres qui est le plus épaisse. Plus on descend vers le pôle sud, plus elle est épaisse, et elle s'amoindrit au fur et à mesure qu'on remonte en latitude. Donc il y a un certain nombre d'indices, finalement, alors que personne n'avait dans la littérature jamais évoqué ce... Il n'y a pas de trace écrite de cet événement. Et pourtant, alors vous parliez tout à l'heure de l'Apocalypse de Saint-Jean, finalement, quand on la lit, ça ressemble assez précisément à ce que pourrait être la chute d'un astéroïde, voilà, sur la Terre. Donc, est-ce que finalement, ça n'est pas cet événement-là qui nous est relaté dans l'Apocalypse de Saint-Jean comme effectivement une dévastation considérable? Moi, c'est une vraie question que je me pose.
Oui, mais elle aurait été écrite 2000 ans après, du coup, ceci, 2000 ans, c'est un petit peu ça.
Alors, justement, par la transmission orale et, en fait, le souvenir de cet événement complètement destructeur, mais aussi fondateur, quelque part, d'une nouvelle façon d'envisager les choses. Donc,
j'ai lu aussi des histoires de mammouths qui avaient été retrouvés avec des fleurs tropicales dans l'estomac, enfin, qui accréditaient la thèse des déplacements des pôles. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs, il y a eu toute une littérature là-dessus aussi.
Alors, à mon avis, c'est plus un effet de modifications climatiques très rapides, comme celles qu'on peut connaître aujourd'hui, et même beaucoup plus rapides à la limite, qui ont mené finalement à la disparition des mammouths, puisque leur ère de leur biotope, finalement, s'est trouvé très vite, très vite, très précis à peu de chacun. Donc, oui, alors Velikovsky, c'est vraiment intéressant. Il a un épigone, si je puis dire, un suiveur qui est donc Monsieur Zachary Sitchin, qui lui nous parle de Nibiru. Alors c'est probablement aussi quelque chose dont vous avez entendu parler. Et alors là, c'est presque comique, s'il n'avait pas réussi à rendre anxieux énormément de gens. En fait, Nibiru, en babylonien, ça veut dire carrefour, croisement ou passage à gué. Et donc, quand il parle de cette planète Nibiru, en fait, Nibiru, c'est un adjectif. C'est la position d'une planète à un endroit très particulier, qui est le croisement entre le méridien, c'est-à-dire la ligne imaginaire qui relie le pôle céleste sud au pôle nord. Enfin, c'est vraiment le méridien. Et cette ligne imaginaire, à un moment, tous les astres, lorsqu'ils se lèvent et avant de se coucher, eh bien, ils passent à ce méridien qui est le point culminant de leur course dans le ciel. Et donc, pour paraphraser la terminologie chrétienne, c'est par exemple Jupiter au plus haut des cieux, puisqu'elle ne peut pas être plus haut dans le ciel à ce moment-là. Et c'est ça que les Babyloniens appellent le Nibiru, le passage au carrefour, quelque part. Et donc, ça avait une importance aussi pour eux sur un plan astrologique, là, pour le coup. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient toutes les planètes, en fait, pouvaient passer au Nibiru. Et Sitchin a pris cet adjectif qualificatif pour un nom propre, de façon, à mon avis, parfaitement malhonnête, parce qu'il avait, toutes les sources sont là pour lui expliquer le contraire, mais il a prétendu avoir une lecture différente et meilleure que celle des autres, et il nous a vendu ça. Alors pour lui, on aurait 12 planètes, Et là encore, ce qui est assez, ce qui est troublant quelque part dans l'esprit des gens, c'est que c'est vrai qu'on peut envisager qu'il y ait des corps célestes au-delà de l'orbite de Neptune. Hein, donc Pluton a été dégradé comme planète, mais on sait qu'il y a des corps qui ont à peu près la même taille, qui probablement se trouvent en marge du système solaire et qu'on n'a pas encore découvert. Mais c'est à peu près certain qu'elles existent par un certain nombre d'indices de perturbation des trajectoires. Donc, mais elles sont sur des trajectoires très stables et qui ne s'approchent jamais du Soleil ou de nous au point de créer des catastrophes comme celles qu'imaginait Velikovsky en tout cas. Donc voilà, c'est toujours un peu... La science elle-même, je dirais, donne des bâtons pour se faire battre puisqu'elle ouvre le champ des possibles dans lequel peuvent s'engouffrer des gens avec des intentions plus ou moins honnêtes et qui veulent faire passer des thèses généralement qui n'ont rien à voir avec la science mais plus avec la manipulation.
Et votre apocalypse préférée,
Alors moi, mon apocalypse préférée, c'est finalement celle qu'ont connue les dinosaures. Déjà, on lui doit une fière chose, c'est donc, on pense maintenant, c'est à peu près clairement établi, qu'il y a 65 millions d'années, il y a un gros caillou, une véritable montagne de 10 km de diamètre qui s'est écrasée sur Terre. D'ailleurs, à peu près à l'endroit où allaient vivre les Mayas des millions d'années plus tard, dans la péninsule du Yucatan. Et ce faisant, a projeté des quantités fabuleuses de poussière dans l'atmosphère qui ont créé un hiver, une sorte d'hiver volcanique ou nucléaire, appelez-le comme vous voulez, mais enfin un hiver de plusieurs mois, voire plusieurs années, qui, là encore, a interrompu la chaîne alimentaire. Et donc ces grands animaux qui avaient des besoins alimentaires considérables n'ont pas pu s'adapter à cette diète brutale. Et c'est vrai que finalement, si aujourd'hui nous sommes l'espèce dominante et de loin sur la planète, eh bien c'est grâce à cet astéroïde qui a rebattu les cartes de l'évolution et qui a permis aux petits mammifères qui grouillaient dans l'ombre des grands sauriens, finalement, enfin des grands dinosauriens, d'avoir une niche écologique qui s'est ouverte devant lui absolument gigantesque et qui lui a permis de se développer et de connaître, qui était en plus à son chaud, enfin, tout un tas d'éléments, je dirais, physiques qui lui ont permis de se retrouver, par le jeu des circonstances, favorisé par ces circonstances et avec le succès que l'on sait. Et donc, mais cela dit, il y a un auteur de science-fiction, mais de science-fiction de hard science, qui est Arthur C. Clarke. Et Arthur C. Clarke résumait la chose d'une façon que je trouve absolument magistrale. Et il disait que les dinosaures ont disparu faute d'un programme spatial adapté. Eh bien, je dirais que il nous reste à prouver que nous sommes plus intelligents que les dinosaures dans ce domaine, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un jour ou l'autre, inévitablement, nous nous retrouverons en trajectoire de collision avec un astéroïde. Ça n'est pas le cas pour l'instant, ne vous inquiétez pas, mais statistiquement, ça se reproduira. Donc, il faut aujourd'hui, dès à présent, repérer le maximum d'objets qui risquent de croiser notre route à un moment ou à un autre, et envisager les techniques qui permettront soit de les dévier, soit, selon la masse, enfin... De faire ce qu'il faut pour que ça se termine mal et pas de la façon dont ça a été montré dans Deep Impact ou dans Armageddon, parce que là franchement c'est assez amusant, moi j'aime beaucoup Bruce Willis aussi, mais bon, en l'occurrence ça le faisait pas.
Mais en fin de compte, pour un écrivain quel qu'il soit, et de science-fiction en particulier, raconter l'apocalypse, c'est surtout raconter l'après-apocalypse, parce qu'il y a toujours des survivants. C'est ça qui vous motive?
Oui, là, la redistribution des cartes, là vous parliez de l'aventure spatiale, c'est-à-dire est-ce qu'on sera capable de construire un vaisseau suffisamment immense pour transporter l'humanité en danger?
Moi, je pensais plutôt en fait au moyen de parer le coup, si vous voulez. Hein, donc,
Le sort de parapluie.
Oui, ou simplement de le dévier. Non, mais on peut. Il y a vraiment des techniques. Si vous le détectez suffisamment longtemps à l'avance, vous pouvez en lui donnant une petite impulsion régulière, et bien vous le déviez suffisamment pour le faire passer à côté.
On va jouer bien avec les astéroïdes.
C'est exactement ça.
Bon, après, effectivement, j'ai un petit peu de doute sur le fait de dévier des gros astéroïdes, mais bon, on peut jouer avec le fusil.
Finalement, c'est vous le sceptique, en fait, de nous deux.
Évidemment, oui, ce qui est intéressant dans le post-apocalyptique, parce que souvent ce sont les survivants, c'est-à-dire la façon dont l'humanité se réorganise et repart sur de nouvelles bases. La plupart des livres post-apocalyptiques parlent de ça, tout simplement, c'est-à-dire des nouveaux rapports humains qui se mettent en place. Et j'ai beaucoup travaillé dans les derniers années de nomadisme, parce qu'il me semblait que le nomadisme était une possibilité de réponse à notre civilisation. Dans le sens où il y avait une sorte de respect écologique beaucoup plus fort, plus important. Donc, c'est une occasion de repartir, et sur quelle base on repart, comment on se réorganise, qu'est-ce que l'Apocalypse a laissé comme condition. C'est un petit peu comme si on se retrouvait en tant que sort de space opéra, l'un des défis, et quelque chose de très intéressant, c'est de décrire les conditions d'une planète nouvelle et de voir comment on s'adapte à cette planète nouvelle. Donc après une apocalypse, on a une planète nouvelle, peut-être avec un fort taux de radioactivité, donc qui oblige les gens à vivre dans les sous-sols, peut-être avec beaucoup plus d'eau, donc qui développe des cyberaquatiques, etc. Et de voir comment un être humain va se réapproprier son univers, son monde qui est devenu inconnu, dangereux, et va pouvoir de nouveau développer une nouvelle civilisation. Et ça, c'est absolument passionnant à faire.
Et la plupart du temps, sans technologie.
Avec une technologie moindre, en tout cas. Une technologie qui a été souvent détruite avec la catastrophe. Et donc, la réadaptation. Revenir, est-ce qu'on est capable de retrouver les gestes qui sauvent, les gestes primitifs, est-ce qu'on est capable de se nourrir, est-ce qu'on est capable de faire du feu, tout simplement. Beaucoup d'entre nous seraient lâchés en nature, on serait un petit peu emmerdé pour faire du feu, pour faire réchauffer nos boîtes de conserve, et même pour les ouvriers, ils sont emmerdés. Il y a plein de questions qui se posent, il y a des gestes fondamentaux, essentiels qu'on a oubliés, et qui d'un seul coup, dans un univers post-apocalyptique, redeviennent essentiels et urgents et fondamentaux. C'est passionnant, c'est la fragilité des choses et le fait aussi que probablement nous professons souvent une sorte de supériorité. Claude Guéant dixit récemment sur la supériorité de la civilisation, car nous avons quatre civilisations, mais putain, on serait tout seul dans une forêt par rapport à des Indiens d'Amérique ou certaines tribus d'Afrique, on serait très très mal, on serait incapable de survivre. De s'adapter, de faire face aux animaux, de trouver sa nourriture, on serait incapable de le faire. Ce qui est intéressant dans le post-apocalypse, justement, c'est de retrouver ses fondamentaux humains, et donc un retour à l'humilité, parce qu'il me semble que notre civilisation pêche par un excès d'orgueil. Vous avez parlé tout à l'heure de l'extermination des Indiens d'Amérique du Sud.
Comme du Nord, d'ailleurs.
Et comme du Nord, il y a eu 18 millions aussi d'Indiens en Amérique du Nord, etc. Donc on a un sentiment de supériorité qui est lié probablement au développement du... Là, je vais en faire un cheval de bataille qui certainement ne va pas vous plaire, mais tant pis. Je pense que la science a pris la place de la religion monothéiste. Elle fonctionne de la même façon, à mon avis. Je savais.
Alors, juste pour réagir là-dessus, si vous permettez, citez-moi une seule religion autre que la science, hein, si je vous concède que c'est une religion, qui passe son temps à dire « Mais démontrez-moi que j'ai tort, bon sang. Mais prouvez-moi, mais montrez-moi ce qui est faux dans mon raisonnement. » Est-ce qu'il y en a une seule ?
Je parle du fonctionnement... Il y a un certain fonctionnement dogmatique de la science. On pourra en parler, on a vraiment 2 ou 3 heures, on n'arriverait pas au bout du débat. Il y a un fonctionnement dogmatique qui est, à mon avis, directement hérité du fonctionnement dogmatique des appareils religieux. Il y a un appareil scientifique. Je pense qu'il y a des scientifiques qui sont comme des mystiques, c'est-à-dire ce sont des gens qui jettent tout principe pour... Vous avez parlé d'imaginaire tout à l'heure, je pense qu'il faut une grande imagination pour faire avancer les choses. Et donc, avoir une grande imagination, ça veut dire échapper ou dogme clairement établi en disant, par exemple, on ne peut pas faire telle chose parce que c'est impossible. Comme on le disait avant, les avions ne peuvent pas voler, les objets plus lourds que l'air ne peuvent pas voler, parce qu'ils sont plus lourds que l'air et qu'il fallait un air chaud, plus léger. Bon. Or, si, ça peut se faire. Donc, c'est l'humilité fondamentale de l'être humain. Et je pense que le scientifique, c'est quelqu'un de très humble. Le vrai scientifique, pour moi, c'est quelqu'un de très humble qui dit, oui, j'ai peut-être trouvé un système, mais ce système peut être remis en cause à tout moment. Dans beaucoup de discours scientifiques que j'entends, il y a cette espèce de dogmatisme qui dit c'est comme ça qu'on doit penser, c'est pas autrement.
Alors, plus que de dogmatisme, effectivement, il faut concéder que les scientifiques sont par nature quelque part des conservateurs. C'est-à-dire que quand ils ont réussi à bâtir un modèle suffisamment solide,
théorie élégante, comme on dit.
Voilà, ils sont très contents parce que ça fonctionne. Selon les cas de figure, on arrive à prédire tel et tel résultat. Donc, ils en sont très contents. Et lorsqu'on attaque cette théorie, c'est le jeu normal de la science, mais il faut venir avec des arguments quand même assez solides. Oui. Hein. Et donc, lorsque c'est vrai qu'on voit fleurir des théories un peu partout, parfois assez séduisantes, mais qui ne correspondent qui ne sont confirmées par aucune observation. Alors, mais quelque part, la relativité, au départ, elle a eu beaucoup de mal aussi à s'imposer, hein, c'est évident. Et puis, il a fallu qu'on aille observer cette éclipse et qu'on se rende compte. Enfin, bon. Donc, il y a eu un certain nombre de preuves observationnelles qui sont venues. Mais, et voilà, donc la science, c'est un milieu conservateur, c'est vrai, mais qui en même temps accepte le débat. Il y a des enceintes pour ça, il y a des revues à comité de lecture, et les idées peuvent finalement évoluer.
Ce qui est intéressant dans la pratique de la physique quantique, justement, c'est que l'observation devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus aléatoire, et qui a remis en cause, d'ailleurs Einstein supportait la physique quantique à cause de ça, parce que c'était une remise en cause fondamentale. On n'a pas réussi à unifier toutes les théories. D'un seul coup, bah, zut, alors on croyait détenir tout le savoir.
C'est le grand défi de la physique actuelle, réconcilier notre description de l'infiniment grand avec notre compréhension de l'infiniment petit.
C'est bien ce qu'on dit, non ?
Ouais, je sais pas mal. J'ai plus grand chose à faire, quel bonheur. Mais il est moins 4, on va laisser la place aux autres.
La fin du monde est moins 4 minutes.
La fin du monde. D'ailleurs, les éruptions solaires commencent déjà à se manifester, on le voit dans la salle. Je remercie Didier Jamais et Pierre Bordage. Je remercie aussi la salle d'avoir créé un petit courant d'air en s'éventant régulièrement. Merci à vous de votre attention. Au revoir.
Vous avez été très bien. Je trouve vraiment que c'est fort bien. Pour un truc où ça peut aller dans tous les sens, c'était vraiment.